RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là. Comme chaque week-end, votre rendez-vous dédié à la tech, c'est De quoi je me mail. Vous le savez, le dimanche matin à la radio. Vous pouvez aussi nous retrouver dès le vendredi en podcast audio sur l'appli RMC et puis bien sûr en vidéo sur 01 TV, sur la chaîne YouTube, sur 01tv.com et sur les box. Avec au menu de ce De quoi je me mêle cette semaine, tout à l'heure, il y aura un petit air vintage dans De quoi je me mêle puisque je recevrai l'un des porte-parole de Fujifilm qui viendra nous parler du succès incroyable des Instax. Vous savez, ces appareils photo instantanés, on appuie et comme par magie, une photo sort imprimée. Alors, qu'est-ce que représente aujourd'hui ce marché? Qui achète ce type de produit? Quelles sont les innovations dans ces appareils photo instantanés? On en parlera avec mon invité. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je me mail, le hashtag DQJMM sur Twitter, et vous pouvez aussi, bien sûr, rejoindre le groupe Facebook de quoi je me mail qui vous attend, où vous êtes plusieurs milliers en fait, à partager votre passion des nouvelles techno et à échanger sur la tech. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, c'est parti pour De quoi je me mail. Et bien sûr, on commence par le club de la presse IT, Jean-Sébastien Zanqui est là. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour François, bonjour à tous.
Journaliste à 01net.com. Jean-Sébastien, l'actu tech de cette semaine, elle est quand même très fortement, on va dire, matinée d'Apple.
Oh oui.
Et on va commencer par cette rumeur, Apple travaillerait sur de nouveaux AirPods. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, effectivement, de nouveaux AirPods et de nouveaux AirPods Pro également, avec d'abord un nouveau design, notamment sur les AirPods Pro, dont l'année prochaine, en fait, ils devraient... a priori perdre l'espèce de petite branche, vous savez, qui dépasse.
La petite tige,
voilà,
là.
La petite tige dans laquelle il y a la batterie, en fait.
Bien
et
sûr.
Apple est en train d'essayer de faire en sorte que cette tige disparaisse et de tout intégrer vraiment dans l'oreillette, comme le font d'ailleurs certaines marques, hein, y arrivent déjà. Mais c'est vrai que grâce à cette tige, il y a aussi des problèmes d'antenne, de connectivité, sert aussi à ça.
De micro aussi, parce que évidemment, comme le micro est au bout de la tige, il capte mieux la voix. Hein.
C'est tout à fait ça. Donc, les rumeurs disent que en gros, Apple tente de le faire, mais ce n'est pas encore tout à fait certain que, les prochains AirPods Pro aient vraiment un design sans cette tige qui est quand même emblématique du design des écouteurs True Wireless d'Apple. Autre nouveauté sur ces AirPods Pro, ils pourraient avoir un système MagSafe. Vous savez, c'est le système qui est apparu avec l'iPhone 12, qui est ce système magnétique qui existe au dos de l'iPhone 12, qui permet notamment de poser le chargeur sans fil. Et en fait, ce système MagSafe, s'il est intégré au boîtier des AirPods Pro, permettrait de recharger ces AirPods Pro grâce au chargeur à induction inversé, en fait, qui se trouve au dos des iPhones, pardon. C'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose qui existe chez Huawei,
la concurrence,
chez Samsung, voilà, effectivement. Ce qui serait nouveau, c'est ce système de fixation, on va dire, grâce à MagSafe. On sait qu'Apple essaye de faire justement tout un écosystème autour de ça avec des accessoires. Donc ça rentrerait dans cette stratégie de déclinaison de MagSafe, en fait.
Oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait que l'iPhone 12 qui est sorti aurait la compatibilité de pouvoir recharger, en fait.
C'est ça.
Par induction. Voilà, ça ne serait pas activé,
oui,
mais visiblement ça pourrait marcher.
Ça pourrait se faire par une mise à jour, tout simplement. Donc ça serait une très bonne nouvelle pour...
Bon, après le problème, c'est que comme l'autonomie des nouveaux iPhones n'a pas l'air formidable, si en plus on recharge des choses,
voilà,
on ne va pas aller bien loin.
Ça va rester occasionnel, je pense, comme utilisation, c'est clair.
J'en ai bien peur. On reste dans l'univers Apple avec la firme de Cupertino qui vient de publier ses résultats financiers, Jean-Sébastien.
Oui, et la firme de Cupertino, comme tu dis, résiste malgré la pandémie, malgré la sortie tardive de l'iPhone 12, malgré les enquêtes pour abus de position dominante.
Ouais, rien ne peut écraser Apple.
Voilà,
finalement.
Rien ne peut écraser Apple. Bénéfice en légère hausse quand même par rapport au trimestre de l'année précédente, au même trimestre de l'année précédente. Quand même 64,7 milliards de bénéfices. Sur l'ensemble de l'année 2020, on sait qu'Apple a des résultats décalés, hein, donc c'est la fin de son année fiscale. C'est quand même 274 milliards de bénéfices sur l'année 2020. C'est des chiffres...
De bénéfices,
de bénéfices,
les amis, attention, hein, bénéfices.
C'est vraiment hallucinant, ce genre de chiffres. Alors, certes, les ventes d'iPhone ont baissé ce trimestre-ci, puisque l'iPhone n'était pas vraiment disponible. On sait que l'iPhone 12 est sorti tard. Mais Apple a profité justement des confinements, de la pandémie, pour vendre en fait plus de Mac. plus d'iPad et plus de services, tout simplement. On sait que les services sont en augmentation depuis longtemps chez Apple, enfin depuis maintenant 2-3 ans chez Apple. Les Mac et les iPads, bon, vivotaient avec un léger rebond des iPads dernièrement. Mais alors là, c'est vraiment là où Apple a fait fort cette année. C'est reparti sur les appareils finalement qu'on utilise chez soi, tout simplement.
Exactement. Et c'est vrai que quand on voit le marché du PC qui a fait un bond grâce au télétravail, on peut l'imaginer. Et on l'a, là, on a la preuve concrète que pour Apple, ça a été bénéfique. Hein.
Tout à fait. Ouais.
On enchaîne toujours avec Apple et cette rumeur assez étonnante, Apple travaillerait sur un moteur de recherche pour concurrencer Google.
Oui, enfin plutôt pour pallier peut-être le retrait de Google des iPhones. En fait, vous savez que dans les iPhones, le moteur de recherche par défaut, c'est Google. Ouais. Et en fait, Google paye très cher tous les ans pour avoir cette place.
C'est des milliards en fait.
Voilà, en fait, il y a un document du département de la justice américain qui est sorti cette semaine, qui estime que l'accord entre Google et Apple pour cette place-là, elle est entre 8 et 12 milliards de dollars par an. C'est phénoménal. Ça montre à quel point Google ne peut pas se passer des utilisateurs d'iPhone. Il y a quand même des centaines de millions d'iPhone en circulation dans le monde. Donc cette manne d'utilisateurs, c'est assez rentable pour Google pour dépenser justement entre 8 et 12 milliards de dollars.
Rendez compte.
Mais donc l'enquête est en cours en se disant mais il y a peut-être une entente entre les deux pour ce soit effectivement Google qui soit en première page. Ce qui est vrai puisque l'accord existe. On sait que Bing est proposé aussi, DuckDuckGo est proposé aussi, mais il faut que l'utilisateur...
Mais par défaut c'est Google, il faut aller dans les paramètres et changer tout ça, ce que personne ne fait.
Puis il faut dire ce qu'il en est. Les performances de Google en search, comment on appelle ça.
C'est le meilleur moteur de recherche aujourd'hui. On peut critiquer Google sur plein de choses, mais leur moteur de recherche est très efficace.
Ça fait 20 ans qu'ils font, c'est vraiment quelque chose qu'ils savent faire. Mais si jamais Google perd cette place, Apple se dit, peut-être qu'il faudrait qu'on propose notre propre moteur de recherche.
Ah oui.
Ce qui est un boulot phénoménal. Comme on l'a dit, Google, c'est 20 ans d'expérience. Donc, de partir de zéro, ça serait très compliqué pour Apple. Mais quand même, les spécialistes du secteur...
Ils n'ont qu'à prendre compte.
Comment ?
Ils n'ont qu'à prendre compte.
Alors, je ne sais pas si c'est assez efficace.
Oui, voilà.
Ils partagent tout ce qui est vie privée, protection de la vie privée. Mais alors après, sur l'efficacité, je...
Il y a encore quelques petits progrès, si on aime beaucoup Quant.
C'est ça, oui. On sait qu'ils sont un petit peu en dessous au niveau des performances.
En effet.
Les spécialistes du secteur, quand même, pensent que Apple a les moyens humains et financiers pour y parvenir. Notamment, quand on voit finalement qu'Apple, il y a quelques années, quand Google Maps est sorti des iPhones, ils sont mis à prévoir Plan, cette nouvelle application. Oui. Ça a été laborieux les débuts, c'était clairement laborieux. Mais en tout cas, maintenant, Plan est une solution tout à fait efficace.
Qui n'est pas encore au niveau de Google Maps.
Qui n'est pas tout à fait encore au niveau de Google Maps, notamment sur tout ce qui est point d'intérêt. On voit souvent quand on cherche des points d'intérêt, on ne les trouve pas forcément dans Plan, mais ils sont dans Google Maps. Mais après, sur la navigation, c'est devenu quand même assez performant. Et pour ça, Apple avait débauché il y a 2 ans, si je ne m'abuse, en 2018, John Andrea, qui est un ancien ponte de Google, qui avait bossé 8 ans chez Google, qui était le head of search chez Google, et qui maintenant s'occupe chez Apple de tout ce qui est intelligence artificielle. Il est arrivé pour ça il y a 2 ans.
D'accord.
Mais bon, ça fait plus trop illusion
peut-être
maintenant.
Peut-être qu'on lui a dit, tiens,
tu as 2-3 compétences en recherche.
Si tu peux pondre un petit moteur de recherche rapide,
si tu peux nous donner un coup de main, ça peut aider.
Mais c'est un chantier qui prendra des années, bien sûr.
Oui, clairement, c'est clairement ça.
Il faut pour scanner tout le web, pour apprendre le web.
C'est ça.
Trouver les résultats de recherche pertinents.
On dit qu'il faut environ que les bots doivent crawler, comme on dit, donc analyser environ 50 milliards de pages web pour commencer à avoir des résultats pertinents. Donc on voit l'étendue du chantier.
Et pendant ce temps-là, Google progresse, bien sûr.
Ah oui, évidemment.
C'est ça le problème.
Évidemment.
Toujours dans l'univers Apple, quelques petites infos sur l'iPhone 12. Et on en parlait tout à l'heure, donc c'est vrai que ce MagSafe qui divise un petit peu les utilisateurs. Certains trouvent ça bien, d'autres moins bien. Enfin voilà, c'est pas l'unanimité. Ça fait pas l'unanimité le MagSafe.
C'est vrai.
Visiblement.
Pour l'instant, on voit pas forcément l'utilité totale globale de la chose. Même si on sait que grâce à ça, ça accélère un peu la charge sans fil. Donc ça, c'est un bon point parce que on sait que c'est beaucoup moins performant qu'une charge filaire. Et en tout cas, Apple aussi, on s'est rendu compte en commençant à manipuler un peu ces iPhone 12, il y a certains utilisateurs qui sont rendu compte aussi que notamment le partage de connexion de l'iPhone 12
qui vous permet par exemple d'avoir du Wi-Fi, même si vous êtes dans un coin où il n'y a pas de Wi-Fi, on partage sa connexion 4G.
Voilà, exactement.
Et demain sa connexion 5G.
Voilà, et on y arrive justement grâce à cette connexion 5G qu'on espère voir arriver bientôt en France. En fait, cet iPhone 12 maintenant partage en Wi-Fi 5 GHz. Jusqu'à présent, c'était du 2,4 GHz. Donc globalement, ça va augmenter les performances et ça va augmenter les débits du partage de connexion entre l'iPhone et par exemple son ordinateur ou sa tablette qui n'est pas cellulaire. Et comme tu le dis, c'est parfait avec l'arrivée de la 5G puisque ça va pouvoir permettre de bénéficier des augmentations de débit de la 5G qui seront répercutées donc sur l'appareil qui sera connecté en Wi-Fi à son téléphone. C'est peut-être un détail, mais en tout cas, on est quand même beaucoup à utiliser ça quand on est en déplacement. On doit voilà, se connecter à son ordinateur, on le connecte à son téléphone, on a une connexion où qu'on soit et ça va permettre un peu de simplifier la vie, améliorer le quotidien des utilisateurs nomades.
Voilà, c'est vrai. Alors même si, c'est peut-être une info anecdotique dans le sens où il faudra avoir de la très bonne 5G, très bon Wi-Fi, un ordinateur compatible, etc. Mais bon, à terme, en tout cas, on
évidemment,
voit que Apple essaie d'apporter des innovations, même en termes de connectivité.
Tout à fait.
On enchaîne, tiens, avec cette application, tous anti-Covid. C'est vrai que là, on repart dans un nouveau confinement. Hein. D'ailleurs, peut-être êtes-vous tranquillement installé à la maison, bien au chaud, en nous regardant. Je le souhaite en tout cas. Soyez prudents, hein. Bien sûr, ça c'est très important. Faites attention à votre santé. Et un mot donc sur cette application que moi, typiquement, j'ai installé depuis le début et j'ai vu qu'il y a eu une mise à jour, tous anti-Covid, qui apporte quelques modifications.
Oui.
Jean-Sébastien.
Oui, tout à fait. C'est un peu le retour de la revanche, on va dire, de Stop Covid. Hein. Tous anti-Covid a été lancé il y a quelques semaines maintenant. Et pour donner un petit peu plus d'attrait en fait à cette application, elle se veut désormais aussi une sorte de point d'entrée pratique pour tous les Français en fait. Et notamment, donc en plus de procéder au contact tracing en Bluetooth qu'on connaît, elle donne maintenant accès aux attestations de déplacement dérogatoire, les fameuses attestations dont on va avoir besoin pour aller travailler, pour aller faire des courses, pour aller chercher ses enfants à l'école. Là maintenant, vous pouvez directement depuis l'application accéder à ces attestations, les remplir et pouvoir les avoir sur son smartphone. Alors, il faut dire ce qui est, on s'est contacté du strict minimum, hein, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une simple redirection vers le site du ministère de l'Intérieur.
Hein. C'est ce que j'ai fait en testant tout à l'heure, on appuie et ça vous envoie, donc, ça lance le navigateur en fait.
C'est ça, ça ne va pas chercher bien loin, mais en tout cas, à chaque fois chercher dans Google, attestation Covid, on va passer directement
par là. Et puis surtout, on a l'attestation officielle, parce que vous savez qu'on peut avoir des arnaques, des choses
tout
comme ça.
Donc, là, au moins, on est sûr que ce soit la bonne attestation. Et voilà, c'est un peu une manière aussi pour le gouvernement d'inciter les Français à installer cette application qui sert à la base quand même à tout ce qui est contact tracing pour savoir si on a été en contact avec quelqu'un qui a le Covid, tout simplement.
Voilà. Alors, installation, moi, personnellement, que je vous invite à installer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur la vie privée, etc. Je peux vous garantir que cette application est totalement sécurisée, qu'on ne saura pas si vous avez le Covid ou pas, que tout est anonymisé, bien évidemment.
Hein. En fait, de géolocalisation.
Est crypté, tout est anonymisé. Donc, franchement, si ça peut enrayer un petit peu cette épidémie et qu'on puisse sortir peut-être plus rapidement de ce confinement grâce à cet outil technologique, pourquoi s'en priver ?
C'est ça la question, en fait. Même si on sait que ça jouera un rôle mineur, mais en tout cas, ça jouera un rôle. Donc, c'est en additionnant tout ça que ça permettra peut-être d'améliorer les choses.
Puisqu'on est dans le confinement, Jean-Sébastien, on va y rester avec Zoom, le logiciel qui, durant le confinement 1, a explosé tous les records.
Oui, tout à fait.
Il est à l'affût, là, Zoom, pour le deuxième confinement.
Ah ouais, plus que jamais prêt, ça y est. Hein, vous vous souvenez de Zoom, hein, tout le monde s'était mis à utiliser ce service de visioconférence.
À juste titre, hein, d'ailleurs, hein, parce que
bien
c'est
sûr.
Vrai que c'était simple, ça marchait bien,
ça marchait
etc.
Très bien, tout à fait. Et on se souvient qu'il y avait eu quand même quelques petits soucis de sécurité à l'époque, notamment quelques intrusions dans des réunions privées, hein, tout simplement. On se souvient notamment de sommets européens où des inconnus avaient débarqué en plein milieu. C'était quand même assez ubuesque. Et donc la société quand même américaine a fait beaucoup d'efforts depuis quelques mois et avait promis de chiffrer de bout en bout les communications. Et ça y est, c'est le cas. C'est lancé sur les applications desktop et Android, pas encore sur iOS. Donc ça permet si vos communications sont interceptées par un tiers une fois qu'elles naviguent sur le réseau, il ne peut pas les déchiffrer puisque les clés de chiffrement sont seulement possédées par l'émetteur et le récepteur. Donc il faut deux clés de chiffrement pour pouvoir accéder au contenu.
Donc en fait, tout le flux vidéo, audio, etc., toutes les données sont cryptées.
C'est ça.
entre l'appareil émetteur et l'appareil qui reçoit.
Tout à fait, donc c'est seulement les deux personnes qui se parlent, ou même plus, puisqu'on peut monter jusqu'à 200 participants avec ce système de chiffrement. Donc c'est seulement ces personnes-là qui ont accès aux communications. Alors pour en profiter, il faut aller dans les paramètres de l'application, vous allez avoir un menu qui vous propose ça, et ensuite vous allez voir toutes les discussions qui sont chiffrées. Il y a une petite icône avec un petit bouclier vert, voilà, c'est assez clair, et ça permet de se protéger des intrusions ou du piratage de vos conversations.
Bon, très bien. Alors, ça va arriver sur iOS. Hein.
Oui, ça va arriver sur iOS prochainement. C'est en cours de déploiement sur toutes les applications de Zoom.
Alors, qui dit confinement dit aussi consommation, on va dire, peut-être gourmande, non pas de gâteaux, enfin si vous voulez, mais plus de contenu vidéo sur toutes les plateformes. Peut-être allez-vous tester Salto hein.
Oui, pourquoi pas.
Ouais, vous l'avez testé, Salto, Jean-Sébastien? Pas encore.
Je ne suis pas encore mis, mais je vais tester. J'en profiter, là. Je vais avoir du temps.
Voilà, on va avoir du temps. Petite news concernant Netflix, qui augmente ses prix aux US.
Oui, voilà, ça tombe à point nommé, hein, pour eux, en tout cas, pas pour les clients. Le service de SVOD a annoncé que le forfait standard, qui est à 13$ aux US, allait passer à 14$.
Ah ouais.
Et le premium, qui est à 16$, va passer à 18$. Donc, c'est 2$ d'augmentation. C'est quand même pas rien, on est proche des 20$. Hein. Arrive à un point.
On est loin des 10$ qui était le tarif de Netflix au début. Hein.
C'est ça. Donc les nouveaux clients, ils devront payer ce tarif tout de suite. Maintenant, si on s'abonne aujourd'hui, c'est ce tarif-là. Tandis que ceux qui sont déjà abonnés, ils connaîtront l'augmentation dans 2 mois. Il y a 2 mois de répit pour les anciens abonnés, c'est sympa.
Juste le temps de sortir du confinement, voilà. Si tout va bien.
C'est un peu ça. Voilà. Alors pour l'instant, ça n'a pas encore été répercuté en France. Les prix sont toujours à 12€ pour le standard et 16 pour le premium, mais en tout cas Netflix a confirmé que ça allait être bientôt le cas, donc voilà, préparez-vous à une augmentation, si vous voulez continuer à voir Netflix, ça va être un peu plus cher prochainement. C'est un moyen aussi pour Netflix de faire un peu plus d'argent, de produire un peu plus de contenu originaux, mais bon, faut arriver à trouver le bon équilibre, hein, parce que normalement ça risque d'être dissuasif.
Bien sûr. Mais c'est vraiment tout le boulot d'équilibriste hein, de Netflix. Jusqu'à combien ils peuvent monter avant que les gens se désabonnent.
D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Il y a des offres Netflix promotionnelles. Mm-hmm. Et on a remarqué ces derniers mois que les offres n'étaient jamais les mêmes en fonction des gens qui se connectaient. Et en fait, ils font ce qu'on appelle de l'A/B testing. C'est un système qui existe dans tout ce qui est développement web et fonctionnalité. On met plusieurs propositions côte à côte différentes, proposées à différents clients, et on voit finalement celle qui remporte le plus grand suffrage. Et finalement, c'est un peu ça. Ils testent un mois gratuit, tarif à 10$, puis après 2 mois gratuits. Enfin, voilà, il y a plein de combinaisons. Et là, ça leur permet certainement de se dire, on va augmenter et on va pouvoir maintenir quand même le nombre d'abonnés malgré les augmentations.
Voilà, pour rester dans les mauvaises nouvelles, si vous êtes abonné Spotify, je ne sais pas si tu as lu ça aussi, il semblerait que Spotify aussi travaille sur l'augmentation de l'abonnement.
Tout à fait.
Voilà.
Oui. Ça risque d'être assez inéluctable pour tous ces services au fur et à mesure des années d'augmenter, de prendre 1 ou 2 euros par an.
Ouais, pas terrible. Un petit mot sur Facebook, Jean-Sébastien. Facebook qui se lance là encore, ça tombe bien avec le confinement. Alors je ne sais pas si le service sera disponible là dans les jours ou les semaines qui viennent. Se lance dans le cloud gaming.
Oui, alors pour l'instant c'est disponible qu'aux États-Unis. Ah. C'est Facebook qui veut surfer sur cette vague du cloud gaming.
Bien sûr.
Le réseau social a annoncé ce service. Alors on est loin des concurrents xCloud, Stadia, GeForce Now, qui proposent quand même des gros blockbusters. Ici, on est plutôt avec des titres free-to-play, des titres gratuits, qui ont déjà fait leur preuve sur mobile. On a par exemple le jeu de course automobile Asphalt 9, le jeu de golf PGA Tour. En fait, ça permet surtout d'accéder à ces jeux sans avoir à les
installer. Mais c'est pas des jeux triple A qu'on a l'habitude de voir sur les consoles.
Non, c'est clair,
hein.
C'est des jeux qui peuvent en plus tourner a priori sur tous les smartphones.
Voilà,
c'est pas une question de puissance disponible, c'est plutôt une question de praticité.
C'est du casual gaming, on va dire.
Voilà, c'est-à-dire que ces jeux-là, on pourra y jouer sur tous ces appareils, desktop, tablette, smartphone, mais sans avoir les installer finalement. Mmh. On retrouvera sa partie d'un appareil à l'autre.
Il faut avoir du réseau.
Voilà, il faut avoir un bon réseau. Et puis, il faut avoir surtout un téléphone Android, parce que c'est disponible que sur Android. Et effectivement...
Et ça, c'est pas la faute d'Apple, ça. C'est pas la faute de Facebook, c'est plutôt la faute d'Apple.
On sait qu'Apple, ils sont en train de faire la guerre au cloud gaming, au grand regret d'ailleurs de Sony et de Microsoft, hein, qui essayent de pousser leurs applications, leur catalogue, et on voit qu'ils n'y arrivent pas vraiment. Et c'est vrai qu'Apple veut privilégier Apple Arcade.
Bien sûr.
Qui a toujours autant de mal à décoller. Et voilà, donc c'est peut-être pas un super choix pour Apple et pour les clients d'Apple surtout. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est que sur Android et sur la version navigateur web, donc sur votre ordinateur.
Voilà.
Et ça arrivera.
On espère que ça arrivera en France.
Voilà, tout à fait.
Tiens, puisque tu parles de Facebook, on sait que Facebook a racheté il y a quelques années Oculus. Mm-hmm. Facebook qui voilà, chouchoute Oculus, hein, avec pas mal d'innovations. Il y a eu le Quest 2 qui est sorti il y a quelques temps et qui est un vrai bon masque de réalité virtuelle que je vous invite à tester parce que franchement, la qualité est là et puis il n'y a plus de fil. Enfin voilà. On se retrouve avec un masque, deux petites télécommandes, ouais. Et puis on est vraiment dans un monde de réalité virtuelle qui est très réussi, avec beaucoup d'applications notamment. Et on reste dans la VR,
oui.
Cette fois-ci avec peut-être l'écran qui nous fera croire qu'on n'est plus en VR et qu'on est dans la vraie vie.
C'est ça, c'est vrai qu'en VR, on a des écrans qui sont très proches des yeux, donc on voit encore les pixels.
Et oui.
Les résolutions ne permettent pas, comme avec un smartphone qui a quelques dizaines de centimètres,
et oui.
Ou un téléviseur qui a plusieurs mètres. Donc la solution va peut-être venir de Samsung et de l'université Stanford en Californie. Les chercheurs des deux entités ont mis au point en fait une dalle OLED qui propose une résolution de 10 000 pixels par pouce. Alors à titre de comparaison, les dalles des smartphones par exemple, on est dans des résolutions autour de 400 à 500 pixels par pouce. Donc vous voyez
l'écart
incroyable qui existe entre les écrans actuels et cet écran-là. Donc comme tu le disais, ça permet voilà, de voir qu'on ne puisse plus voir les pixels à l'œil nu. Alors pour y parvenir, la marque coréenne et l'université américaine ont mis au point une sorte de système avec des films en argent qui permettent de réfléchir les ondulations de la lumière dans des tailles nanométriques. Alors c'est un peu compliqué tout ce système, mais on arrive à cette résolution qui est hallucinante de 10 000 pixels par pouce. Donc ça risque de donner effectivement à Samsung une sorte d'avance sur ses concurrents qui n'ont pas cette technologie d'écran. Et c'est vrai que c'est une technologie qui est centrale dans les casques de réalité virtuelle aujourd'hui pour avoir ce réalisme total qu'on n'a pas encore tout à fait aujourd'hui avec ces écrans très près des yeux.
Voilà, alors ça mettra peut-être quelques années à arriver, hein, on va dire.
Oui, mais... évidemment, on est au niveau de la recherche. Là,
mais c'est très intéressant. Voilà pour l'actu tech de la semaine. Jean-Sébastien, il faut quand même qu'on dise un truc.
Oui.
C'est ton dernier De quoi je me mail.
C'est mon dernier De quoi je me mail, effectivement.
Et voilà, parce que pour tout vous dire, tu peux nous expliquer, tu quittes 01net.
Je quitte 01net, tout à fait. Je vais vaquer à quelques projets personnels.
Voilà, il va vaquer vers d'autres occupations, voguer vers d'autres flots.
C'est ça.
Tu vas nous manquer, Jean-Sébastien.
Vous allez me manquer aussi,
Alors personnellement, parce qu'on est, plus que des collègues de travail.
Oui, oui.
Et parce que, on apprécie, je pense que tous les auditeurs et tous ceux qui nous regardent apprécient ton rendez-vous toutes les semaines, tous les week-ends dans le page mail.
J'étais ravi d'y participer.
Et bien
merci François de m'avoir accueilli dans cette émission.
On te souhaite
C'était
bon
un
vent.
Plaisir. Merci encore.
N'hésitez pas à suivre Jean-Sébastien sur Twitter. Hein. Tu as un compte Twitter, donc
tout
si vous voulez rester en contact avec lui, lui faire un petit coucou,
n'hésitez
ça
pas.
Lui fera plaisir. Surtout vous, mesdemoiselles, hein, n'hésitez pas. Et c'est JS Zanki, hein, ton compte Twitter, entre autres, pour te retrouver. Merci beaucoup.
Merci encore François.
À très bientôt. Bon vent pour la suite.
Merci.
Ce De quoi je me mêle n'est pas terminé. On va poursuivre et on va parler de photos instantanées. Alors, je ne sais pas si tu suis ça un petit peu, ces petits appareils photo, Instax, etc. Je reçois le porte-parole France de Fuji qui est, on va dire, le leader dans ces Instax, ces petits appareils photo instantanés. A tout de suite dans De quoi je me mêle.
RMC 01TV, François Sorel, De quoi je me mêle.
C'est De quoi je me mêle, toute l'actu des nouvelles technologies. On va maintenant ouvrir un petit pan de nostalgie avec les appareils photo instantanés. Alors peut-être en avez-vous un, si vous êtes de ma génération, vous avez sans doute connu les Polaroid, les fameux Pola qui dans les années 70-80 révolutionnaient la photo. Depuis le numérique est arrivé, depuis les smartphones sont arrivés et évidemment ces technologies ont écrasé, on va dire, la photo analogique et même les appareils photo compacts. On va en parler parce que c'est très intéressant de voir qu'il y a du vintage qui revient et aujourd'hui on est de plus en plus nombreux à vouloir revenir à un petit appareil photo tout simple, on appuie
et une photo sort, elle s'imprime, et puis on peut la partager, se l'échanger, l'accrocher sur le frigo et avoir un souvenir qu'on garde et qui n'est pas stocké sur un smartphone. C'est Instax, le leader sur ce marché, et je suis ravi d'accueillir Christophe Ezelut. Bonjour Christophe.
Bonjour François.
Vous êtes responsable marketing communication chez Fujifilm France. Fujifilm, on ne présente plus, vous faites partie du top 5 des constructeurs d'appareils photo, hein, parce que évidemment on va parler d'Instax, mais Fuji c'est aussi des appareils photo traditionnels. Peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Instax, un mot sur l'appareil photo qui a été complètement, on va dire, bouleversé par deux transitions, l'analogique, ça c'était il y a une vingtaine d'années, ouais. Et puis plus récemment les smartphones. Fuji s'en sort aujourd'hui, alors qu'on sait que ça devient de plus en plus compliqué pour les historiques de la photo.
Fuji qui est la seule, Fujifilm qui est la seule marque de la photographie qui soit présente sur toute la chaîne de l'image, donc du tirage au papier photo jusqu'à l'appareil numérique et l'appareil instantané, maintenant on y reviendra, s'en sort par rapport à toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles actions qu'ils savent mettre en place. Et il est vrai, comme vous le disiez, que le marché photo de l'appareil photo numérique est en mutation depuis plusieurs années. Donc on était en 2000, à partir de 2000, la photo argentique, on vendait plus de 120 millions de films en France.
C'est vrai.
La petite bobine verte ou jaune.
On avait les appareils photo jetables que vous avez dû connaître aussi, Christophe.
Les appareils photo jetables. Et je pourrais vous expliquer tout à l'heure que l'Instax vient un peu d'un appareil photo jetable. Et donc ce marché, les appareils photo numériques sont arrivés sur le marché en 2000. Et depuis, c'est un peu une nouvelle révolution aussi au travers de l'appareil photo, la photo numérique. On a eu beaucoup de compacts sur la première partie, donc des appareils qui devenaient de plus en plus, entre guillemets, bas de gamme, qu'on pouvait retrouver à 90-100 € dans les hypermarchés. Et donc, il fallait réinventer ce monde entier et réinventer surtout par rapport à l'arrivée du smartphone, comme vous l'avez dit, parce que le smartphone a balayé tout ça.
Oui. Et ça, c'était le deuxième effet qui a précipité, en fait, le monde de la photo. Parce que à partir du moment où les smartphones sont arrivés, et surtout quand ils ont progressé de telle manière aujourd'hui avec des smartphones, on a des qualités, des photos de qualité dignes d'un compact d'il y a quelques années,
exactement,
voire même plus pour certains. C'est vrai que ça a rebattu complètement les cartes. Aujourd'hui, les appareils photo numériques compacts n'existent quasiment plus.
Il n'existe plus, sauf ce qu'on appelle les compacts experts.
Voilà,
donc quand je vous dis experts, justement, ça parle aussi de la mutation de ce marché. C'est maintenant, aujourd'hui, quand vous voulez un appareil photo numérique, on s'adresse à des professionnels, à des semi-professionnels ou à des amateurs avertis qui aiment la photo. Et on a de la chance en France qu'il y a beaucoup de passionnés de photo. La photo est vraiment importante par rapport sûrement à tout l'historique. La photo a été inventée en France il y a plusieurs siècles. Et donc, on a de la chance qu'on arrive à des produits de plus en plus haut de gamme. Et on se repositionne sur le haut de gamme. Et quand on aime la photo, on veut un bel appareil, on veut
Bridge, on veut un réflexe. C'est quoi aujourd'hui le marché de la photo numérique? Qu'est-ce qui fonctionne?
Alors, le marché de la photo numérique aujourd'hui est donc en légère dégression. Il y a un léger recul. En 2019, les chiffres GFK, qui sont l'institut qui nous permettent d'avoir les ventes d'appareils photo en France et en Europe.
Mais ce marché décroît depuis de nombreuses années, on est d'accord.
Il décroît depuis quelques années, oui. Mais heureusement, au sein de ce marché, il y a des créneaux qui sont porteurs et qui continuent à dynamiser le marché, comme ce qu'on appelle les smart photo print, les CSC, les compact system caméra, ou encore des appareils hybrides sur lesquels vous allez pouvoir changer votre objectif.
D'accord.
Avec une visée différente des appareils réflexes. Et ce segment est aujourd'hui le seul segment qui est en progression sur les appareils photo numériques. Ils tirent le marché vers le haut. Ce sont des appareils plus petits par rapport à leur technologie, que les gens peuvent plus facilement emmener avec eux, qui sont beaucoup moins lourds. On réinvente la photo à ce niveau-là. Alors, on n'a plus les appareils à se trimballer sur le dos de plusieurs kilos. On a des petits produits qui sont faciles à utiliser et qu'on peut emmener partout.
Alors voilà, donc on voit que ce marché a été complètement bouleversé par l'arrivée du numérique et puis aujourd'hui le smartphone. Et puis Fuji, qui depuis une vingtaine d'années propose ce type d'appareil que vous avez apporté, qui est ici.
Flex, ouais.
Alors ça, c'est le tout dernier modèle, c'est le SQ1, voilà, qui SQ1. Est sorti là, à la rentrée. On va rentrer dans les détails, mais je le disais tout à l'heure, un mot quand même, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec les Polaroid, hein, parce que c'était eux qui étaient les premiers à faire ce type d'appareil. On appuie, bzzit, il y avait la photo qui sortait, on attendait quelques minutes, et puis on avait une photo. Alors, vous êtes un concurrent de Polaroid, vous avez complètement mangé ce marché. Hein. Aujourd'hui, vous représentez l'immense majorité des parts de marché de ce type de segment qui est l'appareil photo instantané. Pourquoi, à votre avis? Et pourquoi Polaroid n'arrive pas à reprendre un petit peu de sa superbe?
Eh bien, je pense que nous avions la chance d'être positionnés sur, encore une fois, sur toute la gamme de l'image. Et quand un des produits est en recul ou est en mutation, on peut faire de la recherche sur un autre pour compléter notre activité. Et l'Instax en est vraiment la preuve. C'est-à-dire que la photo instantanée, aujourd'hui, c'est pour nous une alternative pour dynamiser le marché et proposer quelque chose de nouveau à des nouveaux consommateurs et ou même des personnes qui connaissaient cette photo aussi il y a quelques années, mais revenir sur le marché avec des produits différents, des produits qui peuvent allier de la technologie ou pas, en fonction de, si vous voulez, rester entre guillemets un produit basique ou un produit plus technologique, parce que des fois les gens aiment bien le côté basique de l'appareil photo instantané. J'appuie, la photo sort et tout de suite j'ai le rendu sans m'embêter finalement à faire des réglages. Et puis d'autres personnes vont vouloir
je rentre dans
la photo, je change la couleur,
je rajoute des filtres,
je fais des cadrages, je réimprime la photo plusieurs fois si je veux, alors qu'à la base le produit instantané, c'est j'appuie, la photo sort et j'ai une seule photo.
Que je l'ai réussi ou pas, d'ailleurs.
Que je l'ai réussi ou
comme
pas.
Comme à la bonne vieille
Exactement.
Époque. Hein, c'est ça.
Et je n'ai plus jamais la même. C'est vraiment l'originalité du produit instantané à la base. C'est la photo originale qui ne se refera pas.
Mais c'est amusant, Christophe. Je pense que vous êtes un tout petit peu plus jeune que moi, mais c'est vrai qu'on a connu l'époque du Polaroid. Et on se rend compte aujourd'hui que ce type d'appareil est magique pour les nouvelles générations qui découvrent le vintage qui font partie de cette génération qui s'émerveille devant un vinyle, devant une cassette audio et devant ce type d'appareil. On est d'accord que ça fait partie un peu de ce côté vintage de la technologie?
Alors, vintage pour nous, bien, parce qu'on a un retour au vintage et on aime, à travers les vinyles, les CD, etc., on aime revenir à des choses de l'ancien temps et des choses qu'on aimait quand on était jeune. Et c'est vrai que l'instant photo, finalement, revient à travers, avec ce produit-là, revient au goût du jour. Parce que quand vous prenez une photo avec un smartphone, je crois qu'il y a 1200 milliards de photos qui sont prises chaque année. Ces photos-là, qu'est-ce qu'elles sont? Elles restent dans votre portable. Vous ne les utilisez pas.
On les oublie.
On les oublie complètement. Un jour, vous êtes
avec un peu de chance,
vous êtes en train d'attendre un train et vous regardez et dire ah tiens oui j'avais fait cette photo à ce moment-là. Avec la photo instantanée, c'est complètement
différent. On valorise la photo, non?
Le fait d'avoir une photo, on va dire imprimée tout de suite avec ce bord blanc déjà qui est très reconnaissable d'une photo instantanée. Vous avez le tour blanc, ça donne une valeur tout de suite à la photo. Et quand on fait une photo instantanée, ça devient finalement un objet. Vous n'allez pas acheter une photo instantanée.
Ça devient quelque chose de physique et de concret.
Et avec une notion affective aussi. Vous allez la garder, vous la mettez, comme vous disiez tout à l'heure, sur votre frigo, vous la mettez dans votre portefeuille, vous la servez comme marque-page dans un livre, mais finalement, vous ne l'achetez pas. Vous la gardez et même si elle est ratée, certaines fois, vous la gardez parce que c'est le côté instantané que vous aimez bien.
Mais voilà, c'est un souvenir qui peut être posé voilà, dans la cuisine, dans une chambre, etc. Hein.
Tout à fait.
Et on voit les chambres des ados aujourd'hui, ils font des murs d'images, de photos comme ça, instantanées.
Ouais, ça permet la créativité aussi. C'est un produit qui permet pour les jeunes. Alors, pour revenir sur les jeunes, tout à l'heure, vous m'en parliez. C'est vrai que c'est magique. J'appuie sur la photo, sur l'appareil, la photo sort. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais vu ça quand ils étaient avant. C'est donc un procédé finalement nouveau pour eux. Et puis, c'est quelque chose qui est plutôt rassurant. parce qu'ils vivent dans un monde de d'Instagram où les photos qui sont postées ne sont pas toujours la réalité, où elles sont biaisées. Finalement, avec l'appareil instantané, on ne triche pas. C'est j'appuie, la photo sort, et c'est cette photo qui est vraiment nous-mêmes. Quoi.
Ben, sauf si j'ai une version numérique où là, je peux modifier la photo.
Hein. Là, vous pouvez.
Vous parliez d'Instagram, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'Instagram est un peu l'allié de ce que vous faites, non ? Parce que quand on voit le format des photos sur Instagram, Instagram, Instax, on a l'impression que tout ça est intimement lié.
Ben, on ne peut pas ne pas suivre le courant.
On a l'impression que les utilisateurs de ce type d'appareil, c'est la génération Instagram, non ?
Ça dépend. Vous avez, c'est vrai que nous, on a cherché à avoir une photo carrée. Mmh. Et là, on l'a sortie en 2017 avec le premier appareil Square qu'on a sorti. Pourquoi ? Parce que la photo instantanée carrée est plus facilement rapprochable d'une photo que les jeunes connaissent sur Instagram. Donc oui, là, je confirme ce que vous dites. On s'associe à ce qu'ils connaissent de la photo en tant que carré. On ne va pas aller chercher d'autres formats. Mais ça nous permet aussi finalement d'avoir un format un peu plus large, d'exprimer plus de choses dans la photo. Et puis après, vous en parliez aussi tout à l'heure sur la créativité. Quand on veut faire des compositions créatives dans sa chambre, etc., pour un ado, c'est finalement plus facile de composer des choses en format square, dans un format carré. On ne se demande pas, est-ce que je prends la photo à l'horizontale, est-ce que je la prends en portrait, en paysage. C'est dans tous les sens, finalement, c'est le même cadrage qui sort.
Cela dit, vous avez la concurrence. Alors bon, il y a Polaroid, bien sûr, mais il y a aussi toutes ces petites imprimantes qui pullulent. Ouais. Alors évidemment, vous en faites, on en parlera tout à l'heure, mais HP en fait, avec plusieurs modèles d'ailleurs, on peut imprimer des grandes photos. Canon en fait depuis de nombreuses années. Je pense qu'il y a d'autres aussi, d'autres acteurs importants dans l'impression portable. C'est vos concurrents aussi finalement, parce que finalement on peut se dire que ces petites imprimantes, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Je prends ma photo avec mon smartphone, j'ai une appli, j'appuie, elle s'imprime en Bluetooth et puis c'est réglé.
Ça, c'est en fonction. Le marché de la photo instantanée est finalement divisé en trois segments. Vous avez le segment
analogique. Là, avec, par exemple, l'SQ1 que vous avez là.
Exactement.
Là, il n'y a pas une trace de... Ouais, y a un petit peu d'électronique quand même, parce que j'imagine qu'il y a
l'électronique à l'intérieur.
Il y a l'impression, il y a la petite imprimante.
Et puis, vous avez tout ce qui est la prise de... le focus, tout ce qui est la prise de...
Voilà, donc il y a un peu d'une
cellule pour calculer la lumière, si le flash doit se déclencher, etc.
Mais la photo est analogique.
Mais vous n'allez pas, la photo est analogique, vous appuyez, la photo sort, il n'y a aucun réglage, l'appareil fait tout pour vous.
D'accord.
C'est vraiment la photo instantanée basique que les gens peuvent vouloir et ce qui a fait le succès de la photo instantanée à l'époque.
Donc ça, c'est le premier segment.
Ça, le segment analogique qui reste quand même le cœur de lance.
Parce que c'est le moins cher aussi ou pas ?
Parce que c'est le moins cher, avec des produits entrée de gamme dans les 69-70 euros.
Oui, donc c'est un cadeau qu'on peut faire aussi, qui n'est pas complètement... on ne va pas se ruiner, quoi. Ah bon, même si après, il y a les
consommables.
Les consommables, il faut acheter les films, en quelque sorte. Hein, mais on en parlera tout à l'heure. Donc ça, premier segment, l'analogique.
68% du marché en valeur.
D'accord.
Après, vous avez les digital cams. Donc les digital cams, ce sont les appareils qu'on appelle là aussi, dans le jargon instantané, les hybrides. Je vais pouvoir enregistrer ma photo dans un capteur. Je vais avoir un écran LCD au dos de l'appareil.
Comme un appareil photo normal.
Je vais pouvoir changer, faire des réglages, faire des cadrages, réimprimer la photo si je le veux.
Elle sera stockée sur l'appareil, mais aussi si je veux, je peux la transférer sur mon smartphone.
Exactement. Vous pouvez la transférer chez nous. Vous avez une carte, vous pouvez la transférer de votre ordinateur et après sur le smartphone.
D'accord.
Et donc, on a plusieurs typologies de produits qui répondent à ce segment de produits, comme l'appareil Liplay, par exemple, qui est un produit qu'on a sorti il y a un an et demi, qui est un peu révolutionnaire, où vous allez même pouvoir, sur la photo, avoir un petit QR code. Et ce QR code, quand vous allez passer votre détecteur du QR code, vous pouvez enregistrer un son ou une petite phrase sur votre photo. Donc, c'est tout plein d'applications ludiques et technologique qui montre notre dynamisme dans le monde de l'instantané. Et puis vous avez le dernier segment, le segment des SPP dont vous me parliez tout à l'heure, c'est-à-dire les smart photoprinters, les petites imprimantes, qui est sûrement le segment le plus dynamique du marché aujourd'hui.
Et le plus prometteur aussi.
Et le plus prometteur, on pense sur les années à venir et j'espère dès Noël prochain, parce que comme vous l'avez dit aussi, l'appareil instantané, qu'il soit analogique, digital ou smart photoprinter, c'est un cadeau qu'on fait beaucoup pour les gens qu'on aime.
Voilà, pour les fêtes de fin d'année, pour les anniversaires, des choses comme ça. Un mot, alors, on peut évoquer la qualité des photos, mais finalement, je suis en train de me dire, est-ce que ce n'est pas secondaire ? Ce n'est pas avec ça qu'on va avoir des photos d'un réflexe ou d'un smartphone très haut de gamme, non ? Est-ce que là, malgré tout, la qualité est importante ou est-ce que c'est secondaire, puisque de toute façon, on va l'imprimer voilà.
Alors non, la qualité est importante sur ce type de produit aussi. Et c'est ce qui fait notre différence chez nous, chez Fujifilm. Comme je vous le disais, on est sur toute la chaîne de l'image. Ce procédé argentique vient de toutes les technologies qu'on avait avant sur la pellicule argentique à l'époque. C'est d'ailleurs la même usine qui est au pied du mont Fuji, pour la petite histoire. Et de là vient sûrement le nom Fujifilm. Cette usine qui est née en 1934 et qui faisait à la base de la photo du film pour le cinéma.
Après, des pellicules, quoi.
Exactement.
Les bobines de pellicules.
La bobine de pellicule pour le cinéma a été après transformée pour accueillir les films argentiques jusqu'en 2000. Et maintenant, l'usine a été remise à jour pour pouvoir créer les films instantanés. Donc, on a la technologie des films argentiques et tout le savoir-faire qu'on avait qui est mis à l'intérieur de notre film Instax. Et quand vous, pour aller plus particulièrement sur le produit le smart photoprinter, les petites imprimantes, on fait la différence par rapport à la concurrence à travers le procédé d'impression.
D'accord. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de vos concurrents qui font de la sublimation thermique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je crois que c'est des différentes températures qui font révéler les couleurs. Vous avez choisi une autre technologie d'impression.
Nous, on a la technologie Instax avec cette photo, la bande blanche que vous connaissez un peu plus large en bas, qui retient toutes
les composants chimiques
qui permettent de révéler la photo. Et dans un film Instax, il y a 18 couches de couleurs pour pouvoir permettre de révéler.
La photo est imprimée 18 fois, c'est ça, avant de sortir ?
Non, c'est comme était fait un film argentique avant. Vous aviez plusieurs couches de...
D'accord.
Et en fonction de quand le soleil rentrait, la lumière rentrait, elle allait toucher l'une des couches et révéler l'un des cristaux d'aluminium d'argent qui développait la photo en couleur. Oui, j'ai du mal à le dire.
Non, mais attendez, j'ose même pas vous répéter parce que je sais que je vais me planter.
Et donc, ça faisait, c'est ça qui révélait la photo. Et donc, on est sur le même type de procédé, bien sûr, qui a évolué et qui est différent parce que c'est dans un petit format et qu'il faut à un moment aussi stopper l'évolution du procédé pour pouvoir garder la photo le plus longtemps possible et qu'elle ne s'altère pas dans les années à venir.
Oui. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ces photos jaunissent.
Oui, et donc là
photos,
aussi...
D'ailleurs. Mais là, peut-être un petit peu plus vite. Un mot peut-être aussi sur... tout cet univers de la photo instantanée qui est régi par les consommables. On le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on achète cet appareil, on a peut-être quelques photos qui sont comprises dans le...
Des fois, oui, si on achète des...
Voilà.
On peut acheter des packs avec des photos.
Et après, on achète donc des recharges qui, pour certains, sont chères. C'est pas donné. C'est le modèle économique un peu de ces Instax. On achète un appareil photo qui n'est pas très cher et puis vous rattrapez sur les consommables, comme on dit.
Oui, c'est un peu compliqué de dire ça, mais c'est vrai que les consommables nous aident aussi sur... et qu'un consommable est cher.
Enfin, cela dit, ça nous permet...
Pour être direct, on est à 8,90 sur un... sur une pellicule de 10 euros, de 10 photos. Donc on est à moins d'un euro la photo. Quand vous savez la valeur qu'on va donner, nous, après, affective à cette photo-là, et la garder plusieurs années, finalement, c'est pas comme un appareil photo, c'est pas comme un smartphone.
Où finalement, la photo est gratuite, on peut en prendre des dizaines, voilà. Ça change rien.
Et on veut pas, finalement, avec l'instantané, on veut pas faire ça. On veut vraiment que la photo, on lui donne un côté affectif.
Et une valeur. Elle a la valeur de moins d'un euro, finalement.
Exactement.
Donc, avant de prendre une photo, je vais réfléchir, je vais voir si vraiment j'en ai besoin, je vais essayer de la réussir, etc. Parce qu'à partir du moment où j'appuie et qu'elle s'imprime, c'est fini.
Exactement. Une fois qu'elle s'est imprimée, mais c'est ce qui fait, encore une fois, la valeur ajoutée de l'Instax et de la photo instantanée.
Comment va évoluer, en fait, ce marché, à votre avis, Christophe ? Vous nous expliquez que chaque année, il y a toute une nouvelle génération de modèles. Comment ça va évoluer dans les mois, les années qui viennent, à votre avis, la photo instantanée ?
Alors, ça va continuer, quoi qu'il en soit, à évoluer, parce que moi, j'ai déjà au moins 3 ou 4 produits où je commence à avoir des informations qui vont arriver dans les mois qui suivent. Donc, on reste dynamique, Fujifilm. Je pense qu'il va y avoir...
L'innovation va aller dans quelle direction ? L'amélioration de la qualité d'image, de l'impression,
toujours,
du design ?
Chez nous, quoi qu'il en soit, la qualité d'image est toujours quelque chose qu'on travaille et qu'on améliore. On vient de là et c'est vraiment l'ADN de Fujifilm. Il va y avoir des côtés technologiques plus intéressants. Je pense qu'on va chercher des nouvelles. Je vous le disais tout à l'heure, mettre du son sur sa photo. Intéressant ou pas intéressant, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, prouesse technique. C'est le seul appareil photo instantané qui fait ça aujourd'hui. Donc, on cherche des nouvelles technologies. On va les utiliser pour nos appareils. Après, je pense qu'il va y avoir aussi peut-être une montée en gamme vers le professionnel. Je vois bien j'aimerais bien un jour un appareil photo instantané où on puisse mettre un objectif.
D'accord.
Chez nous, ça serait top.
Avec une qualité donc accrue.
Peut-être.
Et toujours ce concept, j'appuie, j'ai la photo qui sort.
Si on reste sur le segment analogique, oui.
D'accord.
Voilà. Alors, est-ce que c'est... Je suis pas dans le cœur du.
Oui, vous êtes pas au du Mont Fuji.
Du Mont Fuji, en train de faire les photos, les appareils photos de demain. Mais comme ça, moi, mon feeling, c'est j'aimerais bien avoir ça.
Dernière question, alors qui est d'actualité. On rentre dans un deuxième confinement. Est-ce que ça va pas vous jouer de tour, cette histoire-là ? Parce que finalement, ce type d'appareil, c'est vraiment le partage, on est en famille, on est entre amis, etc., on fait des photos. Là, on se retrouve un peu à la maison, pas forcément avec toutes les personnes qu'on aime autour de nous.
Je vous cache pas que le premier confinement a été compliqué pour nous. C'est vrai que c'est l'appareil que vous prenez pour aller en soirée et faire des photos avec des amis. Quand vous pouvez plus prendre vos amis autour du cou et faire des selfies comme avec eux, c'est un peu compliqué. Mais on a de la chance avec l'Instax que finalement, si vous êtes chez vous, que vous avez votre pellicule, mais même confiné, vous pouvez en acheter. Vous pouvez faire du do it yourself. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, faire de la création avec votre photo Instax. Donc ça. C'est quelque chose qu'on valorise. Vous pouvez le faire. Vous avez le temps de le faire. Donc voilà. Et puis, il y a complètement de l'autre côté, il y a des nouvelles utilisations de l'Instax. Pendant le confinement, l'un des hôpitaux de Paris nous a appelé, un professeur d'un hôpital de Paris, et nous a dit, écoutez, moi, toute mon équipe a des masques et quand ils vont voir les patients, c'est très anxiogène. J'ai un appareil photo instantané, moi, je l'ai amené dans mon service. J'ai pris tout le monde en photo instantané et ils portent la photo d'eux avec le sourire.
Sans le masque.
Sans le masque. Et quand ils rentrent dans une chambre, les gens au moins voient la tête qu'ils ont et voient qu'ils ont quelque chose, une personne sympathique en face d'eux. Et ça, c'est un côté qu'on n'y avait bien entendu pas pensé.
Bien sûr.
Et c'est quelque chose de nouveau pour la photo instantanée, mais ça montre que la photo instantanée, finalement, elle fait partie de la vie de tous les jours et que même quand il y a des difficultés, on trouve des solutions et on trouve des nouvelles utilisations de la photo instantanée.
Et espérons que bientôt, très vite, on puisse refaire des photos tous ensemble. Alors ça peut-être pas tout de suite, mais en tout cas on peut préparer. Et puis rien ne nous empêche de faire des photos et de les envoyer par la poste aussi, aux personnes qu'on aime, etc.
Ouais.
Moi je pense notamment aux personnes âgées, aux grands-parents, qui ne sont pas forcément férus de nouvelles technologies pour certains. Là on peut prendre des petites photos de la famille, les mettre dans une enveloppe et les envoyer, et ça leur fera forcément plaisir.
Préparer des cadeaux de Noël avec.
Et voilà.
Et encore une fois, là, même au niveau numérique et de réseaux sociaux, on voit de plus en plus, si vous êtes sur Instagram, c'est une photo instantanée, reprise et postée. Pourquoi ? Parce que rien que le fait d'avoir ce côté photo instantanée avec son petit bord blanc très reconnaissable, ça donne une valeur ajoutée.
Oui, bien sûr.
À la photo et donc plus facile à partager et à liker.
Instax donc, bah écoutez, voilà, pourquoi pas, hein, un futur cadeau pour se faire plaisir. Ça commence, vous l'avez dit, à partir de 69 euros,
69
pour l'analogique,
euros.
L'entrée de gamme, et après on monte à des...
Jusqu'à 200 euros en fonction des
Là, on est sur le numérique, c'est ça
avec, voilà, tout à fait, on est sur les photos hybrides qui vous permettent d'avoir des fonctionnalités
plus poussées. Merci beaucoup Christophe Ezenut, vous êtes responsable marketing communication chez Fujifilm France. Ce De quoi je me mêle est terminé. On aurait bien voulu se faire une petite photo histoire d'immortaliser cette interview. Tiens, on va la faire après. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas, hein, De quoi je me mêle, le dimanche matin à la radio sur RMC, mais aussi en podcast audio sur l'appli RMC, sur votre smartphone et en vidéo sur 01tv.com, sur la chaîne YouTube 01tv, sur les box aussi. Si vous êtes chez SFR, Orange, Free ou Fransat, vous pouvez nous retrouver pour une chaîne d'actu tech qui émet 24 heures sur 24. Merci de nous avoir suivis, à très vite.
De quoi je me mail sur RMC et 01tv.